Vous écoutez
RMC. RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'after jusqu'à minuit, l'after de ce mardi à 13 août avec un programme chargé. Dans un instant, on va décrypter ensemble l'actualité du football et dans quelques secondes, nous serons avec Olivier Piqueux, le directeur sportif du SCO d'Angers qui vit un été bien agité, loin de la douceur angevine supposée. Et c'est pas fini pour le SCO qui a même annoncé tout à l'heure le transfert de Jeff Reine-Adélaïde vers l'OL. Dans une petite demi-heure, on posera nos valises à Marseille pour jauger l'urgence, ou pas d'ailleurs, après le résultat des Marseillais défaits lors de leur première journée à domicile face à Reims. Le mercato show, tous les transferts, ce sera avec Angel Ouattara. Et puis dans la deuxième heure de l'émission, supporters stéphanois, appelez-nous pour évoquer les débuts réussis de Saint-Etienne, vos espoirs de recrutement peut-être. Nous irons aussi en Espagne où Fred Hermel nous attend alors que le championnat débutera vendredi et que Neymar balance entre le Real, le Barça et surtout le Paris Saint-Germain. Et puis nous jouerons avec le quiz de l'after. Voilà pour le programme de cette émission. Pour nous accompagner ce soir aussi à l'Est qu'à Créteil, qu'à New York, Damien Périnel.
Bonsoir tout le monde.
Aussi à l'aise sur le service public que sur RMC, Daniel Riolo. Ah bien, bossé un peu, non? Dans sa prime jeunesse.
Ah oui, ouais, il y a tellement longtemps que...
Ah bah oui, mais Damien a joué à Créteil il y a longtemps aussi.
Il y a tellement longtemps, c'est vrai. Je sais pas, on faisait des allusions au passé lointain comme ça.
On ose.
Bravo. Je vais te retrouver des trucs, moi, attends que je tape tout de suite ton nom. Là.
tu vas rien trouver, je suis personne. L'été angevin.
Saint-Etienne, là, t'as pas été la vedette du Forest, toi.
Le fol été angevin. Voilà donc le premier talk de cette émission. On débute cette émission avec Olivier Piqueux, le manager général du SCO d'Angers. Merci beaucoup, Olivier Piqueux, d'être avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, l'été est chaud du côté angevin. On va forcément commencer avec le gros dossier, avec l'information qui est tombée il y a à peine une petite heure. L'Olympique Lyonnais va donc recruter l'un de vos joueurs phares, Jeff Reine-Adélaïde, pour la bagatelle de 25 millions d'euros. On imagine que c'est un gros jackpot financièrement pour le SCO.
Et d'abord, je voudrais rectifier une chose, c'est qu'on n'a rien officialisé encore. On a beaucoup avancé pour travailler sur la faisabilité de ce transfert, mais aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où je vous parle, il n'y a encore rien d'officiel.
Ça semble quand même être en très bon
goût.
Si ça se faisait dans les conditions que j'ai évoquées, ce serait une belle plus-value pour le SCO. Encore une.
Non, c'est une vraie probabilité. Aujourd'hui, en tout cas, le projet de l'Olympique Lyonnais plaît à notre joueur, Jeffrey Adélaïde. Donc ça, c'est une certitude. Maintenant, il faut aligner tout le monde. Et à l'heure où on se parle, on a encore des détails à régler, notamment avec son ancien club Arsenal, avec lequel on doit encore régler des détails administratifs. Donc c'est impossible, à l'heure où je vous parle, d'officialiser, en tout cas, le transfert définitif de notre joueur. Maintenant, les choses sont avancées. C'est un club avec qui on entretient d'excellentes relations. Et donc voilà, le dossier avance, mais pas encore de façon officielle.
Olivier, on imagine qu'en cas de départ, il faudrait potentiellement le remplacer. Vous avez des pistes, vous travaillez en parallèle là-dessus aussi. On parle de Ludovic Blas, c'est un profil qui vous intéresse ?
On est obligé de travailler. Notre objectif numéro un, c'était de garder Jeffrey Adélaïde. Alors donc voilà, il va falloir analyser encore tout ça. Et comme je vous ai dit, il nous reste encore cette nuit, quelques jours pour pouvoir imaginer son départ. Et mon travail avec bien sûr l'équipe au recrutement, c'est de trouver une possibilité de garder un équilibre dans notre projet. Bien sûr, j'ai entendu Ludovic Blas, mais il y a d'autres joueurs que nous avons ciblés. Pour le moment, c'est compliqué pour moi. J'ai une telle envie que Jeff reste encore avec nous. C'est encore une faisabilité, une possibilité, parce que dans le cadre des discussions aujourd'hui, tant que c'est pas terminé, j'espère encore. Et bien entendu, mon travail, c'est de trouver une autre solution si d'aventure Il partait dans un autre club. Donc voilà, on y travaille. C'est compliqué pour moi ce soir. Là, c'est un peu chaud encore. On est depuis. Vous imaginez bien que cette période est une période où, comme vous avez commencé par ça pendant l'émission, c'est l'été chaud en juin et je pense qu'on est là-dedans. On a fait un match très intéressant contre Bordeaux. On voudrait continuer avec ce groupe qui commence à franchir des paliers. Et que le départ éventuel de Jeff remet un petit peu notre projet. Donc il faut pouvoir le digérer, être capable de parler avec Stéphane Moulin, le staff et tout le monde pour réfléchir. Et si d'aventure il fallait travailler sur un autre joueur, voir le meilleur équilibre. Trouver le meilleur équilibre, pardon.
Excusez-moi, mais je comprends pas bien vos explications. Bon, aujourd'hui, il y a 1%. vous allez m'éclairer parce que je comprends pas. Il y a 1% de chance, donc aujourd'hui, 99% qu'il aille à Lyon. Moi, je dirais même 100%, mais je vous laisse le 1% pour la com. Je comprends, vous avez l'air de dire que c'est pas une bonne nouvelle, mais de toute façon, c'est but danger de vendre ces joueurs et de bien les vendre. C'est ce que vous faites chaque année. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes un super directeur sportif, que Angers travaille bien, que Angers est un club qui équilibre bien ses comptes, qu'ils réussissent pour le volet sportif à rester en Ligue 1, ce qui est la mission première. Pour ce qui est de votre dossier de faire venir des joueurs, vous êtes très bon dans ce domaine et vous les vendez bien également. Et là, ce soir, on a l'impression que vous êtes abattu, mais c'est une très bonne nouvelle.
Non, je ne suis pas abattu. Ah, aujourd'hui, si, je vous assure qu'à 5 minutes, j'ai l'impression que c'est compliqué, que, moi, pour moi, ce soir, de vous annoncer des choses officiellement, d'accord.
Ouais,
et bien entendu que le projet de notre club, vous l'avez bien analysé, c'est continuer à révéler des joueurs avec un potentiel. Maintenant, quand on en fait un travail comme ça avec un joueur aussi important dans notre projet, il y a peut-être une forme, et peut-être que vous devez la ressentir ce soir, de déception, parce que quand on est en train de franchir un palier avec un joueur, et c'est le cas depuis pas mal d'années, comme vous l'avez dit, le joueur est en train de franchir un palier, et on est dans une phase de départ. Je suis désolé de ne pas être heureux de voir partir un de mes joueurs, et même si c'est top pour lui, c'est aventurier du
Metz. Si vous le dites comme ça, je comprends mieux. Si vous parlez d'affect, évidemment, je vous comprends. Bien sûr.
C'est tout. Mais... Donc après, bien sûr, il y a le travail. Il y aura le travail à faire.
Voilà.
Il y aura un passage et une explication à apporter à tout le monde au club, parce que il n'y a pas simplement le staff technique, le président, bien entendu, où il faut rendre des comptes, mais aussi nos partenaires, nos supporters, le groupe. Donc il y a une phase comme ça, à partir du moment où à chaque fois on a un joueur qui se révèle, où il y a une grande joie, c'est-à-dire ce qui vient de se passer avec Nicolas Pépé, où on savoure après 2 ans, mais il n'était pas chez nous. Et quand un joueur part, c'était Flavien Thé il y a quelques semaines, maintenant c'est Jeffrey Nadélaïde, il y a une phase de digestion, et notre travail c'est de la digérer le plus rapidement possible pour pouvoir apporter du 109 et encore beaucoup de clairvoyance dans le projet dans lequel on travaille.
Comment vous préparez ça en fait? Parce que vous savez que vous avez des joueurs qui vont être sollicités, la plupart sont à Angers, et quand il y a des belles opportunités, c'est logique, dans leur carrière ils ont envie d'aller dans des plus grands clubs, de gagner plus d'argent. Vous avez quoi dans la saison? Vous avez la liste des joueurs et vous dites tout le monde est transférable s'il y a le bon prix, évidemment. On n'aimerait pas transférer cette année, on aimerait garder un an de plus.
C'est ça, on avait donné un bon de sortie pour Flavien Thé, d'accord, l'été dernier.
Ouais.
Et puis pour Stéphane Bauken, compte tenu qu'il est arrivé libre chez nous, c'était un gentleman agreement que nous avions. Et René
Adélaïde, il n'avait pas le bon de sortie?
Non, voilà.
Somme est arrivée alors? C'est parce qu'il y a une bonne somme.
On a une somme. Aujourd'hui, on va annoncer un budget qui va être de 31, 32 millions d'euros.
Ouais.
Et si vous imaginez le montant que vous avez annoncé, si on n'est pas très loin de ça,
c'est parfait pour vous, quoi.
Voilà, c'est compliqué de changer le discours et avec un projet, si d'aventure ça se concrétisait avec Lyon, c'est un club qui joue la Ligue des Champions, qui a l'habitude de réveiller des joueurs et les faire passer encore un cap supérieur, et donc beaucoup de choses sont réunies et c'est compliqué à ce moment-là.
Bien sûr.
D'empêcher un joueur de partir, et même si la volonté que nous avions et que je partage avec le coach et le staff, c'était de le conserver pour continuer à construire notre projet et lui laisser un bon de sortie l'année prochaine. Et peut-être que c'est ça que vous ressentez dans ma voix aujourd'hui, parce que c'est ça que je veux traduire. Mais maintenant, voilà, notre club, malheureusement ou heureusement, révèle des joueurs. Et parfois, on fait pas exactement ce qu'on aimerait faire, mais ça c'est mon travail justement de retrouver maintenant un joueur en capacité à venir, comme quand arrivait Jeffrey Nadélaïde il y a 1 an et demi, où personne ne connaissait, si ce n'est que c'était un joueur exceptionnel de sa génération qui avait atterri à Arsenal. Donc voilà, donc c'est dans l'énergie, dans cette énergie que je suis aujourd'hui et avec lequel on va travailler avec l'équipe pour répondre au mieux aux besoins de Stéphane pour rester équilibré dans notre projet.
D'accord. Olivier Piqueux, manager général du SCO d'Angers, est avec nous sur RMC dans l'After. Merci beaucoup. Une question de Damien Périnel.
Bonsoir Olivier, décidément, on s'est beaucoup au téléphone en ce moment.
C'est bien.
Je suis ravi de vous avoir un peu plus au téléphone, un peu plus tôt dans ma carrière, ça aurait été plus sympa quand même.
On n'aurait pas, ça aurait duré 6 mois à le départ. Hein. 6 mois, c'était filé.
Donc l'année dernière, je crois, Carto Kouekambi, c'est ça, oui. Aux alentours de 20 millions. Cette année, Reine Adélaïde, 25.
Nicolas Pépé l'année d'avant.
Voilà, Nicolas Pépé.
Je vais lui demander qu'est-ce qu'ils font tous blé.
Ben ouais, vous roulez sur l'or à Angers. Donc,
il y a des gens qui mettent l'argent dans les poches. C'est pour ça, c'est business.
La JOCR est un moderne. Non, c'est plus sur votre stratégie de recrutement. On se souvient d'une équipe d'Angers lorsqu'elle est montée en Ligue 1 avec, c'était vraiment une équipe vraiment basée sur le physique, on va dire. Et aujourd'hui, il y a des joueurs comme la recrue de Pereira Lage, René Adélaïde, Santa Maria au milieu, où on a l'impression que votre profil, les cibles sont un peu différentes dans votre recrutement. Vous prenez toujours en division inférieure, avec une grosse capacité de progression, mais les profils ont changé, j'ai l'impression.
Oui, c'est une bonne analyse. En 2016, quand nous sommes montés, le budget était de 25 millions d'euros. Et 0 euros pour l'enveloppe transfert. Donc il fallait que j'aille chercher des joueurs en fin de contrat. Mmh. Et donc on a fait ce travail. Je pense qu'on a eu beaucoup de réussite parce que des joueurs de qualité étaient en fin de contrat. Et donc on est allé recruter comme ça. On s'est basé sur une organisation avec un 4-3-3 plutôt défensif, avec une capacité et à contrer, à être fort physiquement et marquer sur coup de pied arrêté, quelque chose de très basique, mais lié simplement à nos moyens. L'ambition qu'on a sur le jeu, et vous imaginez bien, c'est qu'il faut avoir des joueurs de qualité. Les joueurs de qualité se payent. Et on n'était pas dans la capacité encore à acheter. Donc voilà, petit à petit, le club s'est maintenu, a fait une finale de Coupe de France. On nous a fait des ventes importantes. Ça a permis de réinvestir parce que le schéma que me laisse et la possibilité que me laisse le président Saïd Chaban, c'est pour une vente de 10 millions, c'est réinvestir 33% de la vente. Pour donner un exemple. Et donc, on a pu commencer comme ça, à pouvoir investir sur des jeunes joueurs de qualité et franchir d'autres paliers et aller chercher, bien sûr, des joueurs avec un plus fort potentiel. Et le jeu a la conséquence de s'améliorer parce qu'on n'a pas, vocation à rester ce que nous étions il y a 4 ans maintenant et continuer à évoluer.
C'est un peu plus plaisant à garder maintenant, honnêtement.
C'est-à-dire, le club n'a pas vocation. Il y aurait l'idée que le projet pourrait changer à Angers ? De toute façon, ça reste un club avec un petit budget qui va continuer à travailler comme vous travaillez en ce moment.
On reste toujours le dernier ou l'avant-dernier budget de Ligue 1. Par contre, je considère que la qualité des joueurs qui sont venus nous retrouver, le travail que nous avons fait à la formation, parce que le centre de formation est maintenant ouvert depuis 6 ans, et on a un joueur comme Ryan Aïknouri qui était aligné pour la première fois en tant que titulaire contre Bordeaux, et il vient de fêter ses 18 ans. Tout ça conjugué, plus des joueurs un peu plus talentueux, nous permet d'évoluer dans la façon d'aborder les matchs et d'avoir une meilleure maîtrise. Oui. Donc voilà, et j'espère que demain, on va encore continuer comme ça, évoluer financièrement à travers le travail qui est réalisé et aussi sur la qualité des joueurs qui viendront encore. Mais je veux pas remettre en cause ce qu'on a fait. C'était vraiment une étape
personne ne remet en cause. On comprend bien, vous êtes très clair dans l'explication. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il n'y a pas de, de gens dans le club, autour du club, qui disent que en progressant de cette façon, je sais pas moi, dans 3, 4, 5 ans, Angers pourrait changer de dimension. En disant bon, maintenant on est un club qui joue l'Europe et tout. Non, c'est pas. Il n'y a pas les structures. Il n'y a pas la taille de stade. Il n'y a pas le bassin de population. Voilà. C'est pas fait pour vous ça. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, grosso modo.
Non, j'espère qu'on va continuer à évoluer. On a le projet du stade qui va être achevé maintenant dans 2 ans, avec une capacité de 20 000 places.
Ouais.
On se développe tous les ans. On a ouvert le centre. On a créé une académie. On s'est développé un peu partout. Mais
après, si ça se présente, vous n'allez pas refuser quand même.
Comment?
Si ça se présente, les places européennes, vous n'allez pas les refuser. Vous allez
non, mais
jouer.
Aujourd'hui, je crois que l'unité qui nous caractérise. Il y a deux totems importants dans le club, c'est l'humilité et l'ambition. Et je pense que c'est pas antinomique. L'humilité, c'est de savoir quels moyens nous avons, et l'ambition, c'est de croire en notre capacité à nous développer encore et être présent la saison prochaine encore en Ligue 1. Et toutes les personnes qui travaillent dans le club pensent comme ça. Donc, et les joueurs qui viennent doivent penser comme ça. Donc, on va continuer à évoluer. Et je considère que Stéphane Moulin, le travail qu'il réalise, il va être énorme pour la 9e année à la tête de l'équipe première. Et évoluer lui aussi. Il est plus l'entraîneur qu'il était quand on a commencé l'aventure en Ligue 2. Donc, le club avance. Bah, pas peut-être à la vitesse que je voudrais, mais il avance. Et ça me paraît très important. Et à nous de continuer comme ça. Et forcément que, qu'en perdant des joueurs aussi importants que Jeff Adélaïde, Nicolas Pepe, Karl Toko Ekambi, à un moment donné, il faut recommencer. Et c'est peut-être un peu moins rapide que ce qu'on pourrait espérer s'il était resté chez nous.
Donc il y a un transfert à 1 million d'euros qui arrive là, c'est ça.
Dites-moi, Olivier, que
je rappelle même calcul.
Vous occupez aujourd'hui 25. Vous occupez aujourd'hui une fonction qui est de plus en plus, surtout en France où l'économie des clubs est basée beaucoup sur les achats-ventes. Vous occupez une fonction qui est de plus en plus importante dans les clubs. Directeur sportif, c'est devenu un rôle important et les noms, quand ces gens-là travaillent bien, sont également devenus importants. Évidemment, on pense à Lille, à Luis Campos, qui est devenu un petit peu la vedette. Vous, moins sous les feux de l'actualité, ça fait quand même pas mal d'années qu'on dit Olivier Piqueux, le manager qui recrute bien, qui vend bien. Dans le milieu du foot, ça se sait. Et ceux qui nous écoutent le savent aussi. À aucun moment, tous les clubs français qui veulent bosser sur ce modèle et certains qui se plantent pas mal, à aucun moment, ces gens-là sont venus vous chercher en vous proposant deux fois ce que vous gagnez là pour mettre tous vos réseaux en œuvre dans d'autres clubs.
Écoutez, d'abord merci pour le compliment, mais
non, mais c'est même pas un compliment. Tout le monde le sait dans le foot. On va pas se mentir.
Je l'ai dit il y a pas très longtemps sur votre antenne. Le sujet pendant cette période-là, c'est pas moi. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement le rôle que j'occupe est un rôle important dans le développement et du football moderne, tout simplement, en étant en lien complet avec le projet et l'ambition du président, et en même temps en étant proche du coach, parce que la responsabilité de nos résultats lui incombe et puisse me sentir à ses côtés pour le protéger et puis en même temps faire avancer dans les choix me paraît important. Aujourd'hui,
je n'ai pas ma question là, en disant ça.
Je vais vous répondre. L'épanouissement dans lequel je suis aujourd'hui me permet de continuer à évoluer. Si des clubs sont intéressés, c'est plutôt flatteur.
Oui,
mais
valorisant.
Encore faut-il que dans l'énergie dans laquelle j'évolue aujourd'hui avec le président Cheikh Chaban qui me laisse une grande liberté, je puisse continuer à m'épanouir de la même façon. Parce que le travail qui est réalisé au club, c'est tout le monde à la bonne place. Et quand tout le monde est à la bonne place, peut-être que ça peut valoriser mon travail. Et dans un autre projet, peut-être qu'un peu moins, parce que si les choix que je peux proposer ne sont pas respectés, on peut dire que mon travail ne serait pas bien fait.
En gros, vous avez les clés du club, quoi, c'est ça. Vous faites un peu...
Comment ?
Vous avez les clés du club, vous faites ce que vous voulez.
J'aime pas forcément ce terme, parce qu'encore une fois, le président, c'est lui qui tient les clés du club, c'est lui qui paye, c'est lui qui a la responsabilité. En plus, Saïd Chaban est l'actionnaire à 99% du club, vous imaginez bien qu'il tient les clés. Maintenant, il me fait énormément confiance, et ça, c'est très important pour que je puisse continuer à m'épanouir. Ce métier est fantastique, je l'ai rêvé plus que celui d'être joueur.
Ouais, mais un jour, vous aurez envie d'aller voir ailleurs.
Voilà, on verra. Pour le moment, je m'occupe du recrutement du SCO d'Angers. J'espère vraiment que trouver encore des joueurs en capacité à surprendre et faire une carrière, parce que ce que nous avons vécu avec Nicolas Pepe ces derniers jours, c'est une forme de réussite, mais pas simplement pour moi, pour l'ensemble des collaborateurs.
Olivier Piqueux, le manager général du SCO d'Angers, est avec nous sur RMC. Merci beaucoup. On va, on a mis les pieds dans le plat avec.
Merci, René Adélaïde.
Juste une question.
Transfert et après la tienne.
Bauken, il a un bon de sortie. Est-il courtisé? Santa Maria également, est-il courtisé? S'il y a des départs, est-ce que chaque départ sera compensé par une arrivée?
On a vraiment envie de continuer l'aventure avec Stéphane, qui a fait une saison incroyable la saison dernière, et Baptiste Santamaria. On a réussi avec Baptiste, il a été sollicité, ça n'a pas dû vous échapper, par Aston Villa. Et Baptiste a souhaité continuer dans notre projet. C'est une grande fierté, c'est pour ça qu'on peut se retrouver aussi à des moments où on a dit: Baptiste, l'année prochaine, c'est pour toi. C'est pour toi, tu vas faire une grande saison, elle est pour toi. Et on est dans ce discours. À l'heure où je vous parle, parce que il reste encore 3 matchs, j'aimerais que le mercato se termine pour pouvoir assumer pleinement mes propos. Mais en tout cas, on est dans cette énergie de faire la saison pour Jeffrey Ndelaïde. Depuis avant le championnat d'Europe, je savais que ça pourrait être compliqué et on s'y est préparé.
Daniel.
La question à laquelle il répondra pas. Faites attention parce qu'un petit sourire comme vous venez de faire là, ça pourrait être mal interprété.
Ouais, d'accord, je vais répondre.
Quand vous voyez certains clubs qui se plantent chaque année dans le recrutement, qui n'arrivent pas à trouver soit la perle rare, soit en tout cas les joueurs à chaque poste. Et le club auquel je pense c'est l'OM. Quand on voit à quel point au niveau de la direction sportive ça, ils travaillent pas bien dans votre coin, vous dites c'est pas possible, comment ils font pour être aussi mauvais?
Je suis incapable de penser ça, parce qu'aujourd'hui je sais que les responsabilités là-bas pour un club comme celui-là aussi populaire doit poser aussi d'autres problématiques que je peux rencontrer à Angers. Donc c'est compliqué pour moi d'avoir une pensée négative. Je regarde ce qui se fait. Je regarde les décisions parce que à travers les décisions, mais pas simplement à Marseille, mais à Paris ou Monaco ou même l'Olympique Lyonnais, les gros clubs, ça me permet moi d'avoir une analyse de ce qui est fait, quelles décisions sont prises et me remplir dans la fonction que j'occupe aujourd'hui. Mais en aucun cas, je me permettrai de juger ce qui se passe parce qu'il faut être en interne, il faut être près des actionnaires pour connaître aussi les moyens. Et tout ça, ce sont des données qui m'est difficile de d'avoir. Je connais ma feuille de route et les difficultés que j'ai. À travers cette difficulté, j'essaye de trouver des solutions, mais ça serait malvenu de ma part de répondre en disant que le travail est mal fait pour ces clubs.
Bonne réponse. Olivier Piqueux, juste avant de vous libérer dans cette période très chaude de mercato dont vous avez parlé tout à l'heure, on va accueillir Valentin. Il est supporter du SCO. Il aura une petite question à vous poser directement. Bonjour. D'accord. Valentin. Bonsoir Valentin.
Messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Olivier Piqueux est avec nous. Il t'écoute.
Oui, bonsoir Monsieur Piqueux. Tout d'abord, merci pour vos années de fidélité et le travail extraordinaire que vous faites depuis que vous êtes à la tête du club, en association avec M. Boulin, notre entraîneur, et M. Chaban, notre président. On a lu dans la presse ce week-end, notamment en début de semaine, que vous souhaitiez prolonger donc Ryan Nouri, qui était assez courtisé en début de saison, et notamment l'année dernière. Est-ce que vous comptez le prolonger pour essayer de le garder le plus longtemps possible?
Oui, c'est une bonne question. Effectivement, Stéphane Moulin a commencé la saison avec Ryan, qui vient de fêter ses 18 ans, je l'ai dit tout à l'heure, et on a une grande envie, c'est qu'il représente aussi notre club et la nouvelle génération. Il est formé au club, il est passé par notre centre de formation et est arrivé à l'âge de 14 ans, et ça pourrait être un très bel exemple pour compenser une déception entre guillemets que pourrait apporter le départ de Jeffrey Nélaïde, et un grand signe dans le projet que nous voulons continuer à bâtir. Donc j'espère de tout cœur qu'avec Ryan on trouvera rapidement un accord.
Olivier Piqueux, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Cette période de mercato, on le sait, extrêmement mouvementée. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous sur RMC. On vous souhaite une excellente saison avec le SCO.
Merci.
Et à très vite.
Merci vraiment. Merci à vous.
Merci
à
beaucoup.
Bientôt.
On revient dans un instant dans l'after. On va parler de Marseille en état d'urgence ou pas. C'est la question que l'on va se poser. On sera avec Florent Germain, notre envoyé spécial sur place. Et puis tout à l'heure, le mercato show, toutes les infos transferts de ce mardi 13 août. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'afterfoot, Timothée Mémon.
De retour dans l'after, on va évidemment continuer à parler de l'Olympique Lyonnais, du mercato. Juste le temps pour moi de vous faire un petit point sur les résultats du soir. Ça, c'était le premier tour de Coupe de la Ligue. Absolument. Ajax PAOK. Pour l'instant, 3-2
Il reste
en faveur
secondes.
De l'Ajax sur le cumul des dommages. Ça fait 5-4. Si le PAOK marque un but de plus, c'est le PAOK qui passe.
Non, là sur cette action-là.
Il y a une autre énorme surprise, messieurs. C'est le Tchéphéré Cluj qui est en train de sortir le Celtic. Il y a 3 partout. Tout pour le moment, avec notamment un but de l'unique français de Cluj, Omrani, et puis Krasnodar qui est en train de sortir Porto avait remporté la première rencontre 1-0, mais Krasnodar mène 3-0 sur la pelouse de Porto.
Pas de but de Cabella.
Pas de but de Cabella, mais il est titulaire.
L'Ajax vient de se qualifier, mais alors ils ont sué sur la fin.
Voilà, Ajax qualifié. Puisqu'on parle de compétition de haut niveau, on avait le premier tour de Coupe de la Ligue avec à 18h45
Lorient. Je ne veux pas te froisser, mais je vais regarder la fin du match.
Je t'en prie, je t'en prie. Bah, pendant que je donne les résultats, je te laisse regarder. Ouais. Lorient-Le-Mans, c'est Le Mans qui s'est imposé 2-1. Dans les matchs de 20h, Ajaccio a battu Valenciennes 4-1. Auxerre et Béziers ont fait match nul 0-0, mais c'est Béziers qui s'est imposé au tir au but. Idem pour Bourg-en-Bresse qui a battu le Red Star après tir au but. Caen-Nancy 1-0 pour Nancy. Clermont-Le Havre, c'est Clermont qui s'impose au tir au but. Il y avait un partout à la fin du temps réglementaire. Le Gazélec d'Ajaccio a battu Chambly 2-0. Grenoble s'est imposé au tir au but face à Rodez. Niort-Châteauroux 3-1. Orléans-Guingamp 4-1. Paris FC Sochaux 2-1. Et puis à la 64e minute de jeu, entre 3 et Lens, pour l'instant c'est 3 qui mène 1-0. On va parler de l'Olympique de Marseille qui s'est incliné 2-0 face à Reims en match d'ouverture avec un fond de jeu dramatiquement similaire à celui de la saison passée. Seulement 2 recrues, Alvaro González et Pipa Benedetto. Est-ce que l'OM doit recruter? Comment Marseille doit réagir? Pour nous en parler, Florent Germain qui nous fait l'amitié d'être avec nous, notre spécialiste et envoyé spécial à Marseille. Bonsoir Florent.
Salut Timothée, salut Damien, salut Daniel, salut à tous.
Salut Florent.
Salut Flo.
Alors Flo, l'impatience, l'ambiance est-elle déjà un peu tendue autour de l'OM après le match de samedi? On a déjà, après le match, senti un début de tension. Est-ce qu'il y a déjà une petite effervescence négative autour de cet OM?
Tu posais la question en introduction, y a-t-il déjà urgence à l'OM? Je pense pas que tu aies lu le titre de la Provence, ou alors tu as deviné, mais il y a déjà urgence. Nos amis de la Provence, titre, il y a déjà urgence. Donc eux sont affirmatifs. Écoute, urgence, je sais pas, mais impatience et début d'exaspération ou de tension, et ce qui est assez rare au final, faut bien le souligner, pour une première journée de championnat, moi c'est ce que j'ai ressenti au stade. C'est sûr et certain. Je ne parle pas d'urgence de points, je ne parle pas d'urgence vis-à-vis d'André Villas-Boas, évidemment.
Tu as raison, Flo. Voilà. Le fait que ce soit première journée et que, même à Marseille, où l'impatience est toujours de mise, que dès encore, la première journée, il y ait ce sentiment-là, parce que ça suit la saison dernière, parce qu'il y a déjà forcément un peu d'espoir sur le nouvel entraîneur et que ça redémarre avec exactement, c'est ça le vrai souci, c'est que ça a redémarré avec exactement la même attitude sur le terrain.
Moi je dirais même
les mêmes
pire,
défauts.
Même pire.
Oui, mais on a l'impression que ça continuait. Donc si ça continue sur ce qu'on voyait en fin de saison, c'était forcément pire.
Ah, t'as pas d'évolution positive, c'est incroyable.
Non, mais c'est ça, Damien. Si tu continues sur la 38e journée, vu que c'était une pente descendante, c'est normal que là, il n'y a pas eu d'été, l'été n'a pas existé, tu continues et c'est encore pire.
Complètement.
Et c'est ça qui fait que, alors que ça n'est qu'une première journée, t'as raison de le dire, Flo, eh ben, il y a déjà ce sentiment très étrange, alors qu'on en est qu'au début, quoi.
Bon, après, faut rappeler que les 11 titulaires étaient 11 joueurs qui étaient déjà là la saison passée, donc même s'il n'y a eu que 2 recrues, Timothée l'a rappelé, il y en a une seule, Benedetto, qui est entré en cours de jeu. Bon, je résume, hein, pour ceux qui n'ont pas tout en tête de samedi, il y a eu la bronca, il y a eu des joueurs sifflés, donc il y a vraiment ce sentiment qu'il y a déjà un petit divorce entre le public et certains joueurs, à ma vie, Valère Germain, est-ce que c'est mérité ou pas, je rentre pas dans ce débat-là, mais je dis simplement qu'ils sont vraiment pris en grippe. Ils sont pris en grippe. Il y a eu des banderoles. Franchement, depuis une petite douzaine d'années, je suis l'OM. J'ai pas souvenir de banderoles anti-direction de chant contre un président de l'OM sur une première journée de championnat. Le bas du virage sud a sorti
toutes les critiques. Bah, c'est lui aujourd'hui. C'est lui le coupable.
On a souvent résumé en disant que Rudy Garcia avait été un premier fusible pour les dirigeants de l'OM et notamment Jacques Anguero. Je sentis dans tes questions, et je pense que t'as raison Daniel, et on y reviendra à un moment donné, il y a beaucoup d'impatience concernant Andoni Zubizarreta, qui pourra plus se cacher derrière le fait que c'est Rudy Garcia qui a les mains, qui avait les clés du recrutement. Il est très attendu, surtout avec ce qui se passe dans d'autres clubs. Tu parlais d'Angers, mais on peut parler de Lille aussi. C'est regardé avec beaucoup de jalousie ou de gourmandise du côté des supporters marseillais. Faut pas croire, je veux combattre un peu un cliché, faut pas croire qu'à Marseille on attend que des noms. Le supporter marseillais, il est pas idiot. Il sait très bien que Marseille est dans une situation difficile financièrement, que Marseille peut pas lutter contre certaines écuries en ce moment.
Voilà,
et on en a déjà parlé. Par contre, aller chercher des joueurs comme a su le faire par exemple Lille, là, alors ça demande confirmation, mais avec son attaquant Osimhen et autres, certains paris.
Ça, moi, je suis sûr que ça doit énerver les Marseillais.
Non, mais Marseille et les supporters sont friands, ont envie de coups comme ça, ont envie de s'enflammer pour un joueur qui est pas trop connu. Il y en a un peu marre à Marseille de ce recrutement de joueurs que finalement les amoureux du foot connaissent, parce que les Luis Gustavo, les internationaux français qui sont revenus,
Rongier, ça fait pas rêver la canebière.
Si, à la limite, parce que ça reste un joueur qui a un profil un peu
hargneux combatif.
Un peu hargneux combatif, c'est pas la star, mais
c'est pas tant ça.
Mais justement, Flo, tu me parles du profil de Rongier. Mais c'est exactement un profil similaire à ce que tu as aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui va jouer sur du changement de rythme, qui même au milieu de terrain, c'est un peu le profil ronronnant d'un Sanson, d'un. C'est ce style-là. Ils l'ont déjà, ce profil.
De toute façon, il n'arriverait qu'en cas de départ, a priori, hein, de. Et puis on en a parlé, le fait que Christian Gourcuff soit arrivé, le fait qu'il y ait une blessure pour Marcus Coco, bon, ça complique a priori les choses pour une sortie de Rongier de Nantes. Mais il ne partirait qu'en cas de départ au milieu de terrain. Mais on va pas empiler les joueurs au milieu. Il y a déjà.
Mais Flo, tu vois, le truc, c'est quand Luis Gustavo arrive, c'est pas il y a 10 ans non plus, hein.
Non, c'est il y a deux ans. Hein.
Voilà.
L'intersaison de la Coupe d'Europe.
C'est un super coup.
Un an avant.
On en convient tous. C'est génial. Quand même quand à ma vie arrive, les premiers matchs et la demi-saison, elle est bonne. Les Marseillais se disent tiens, on a chopé un mec là qui était bon, qui était un peu dans l'oubli en Angleterre. On revient, il est bon.
Parce qu'il y avait Evra aussi au poste à l'époque.
Voilà, mais n'empêche que ses premiers matchs,
mieux qu'Evra,
ses premiers matchs sont plutôt pas mal.
Aujourd'hui, qu'il avait été appelé en équipe de France.
Aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc tu te dis mais pourquoi d'abord ce mec-là est devenu à ce point catastrophique. Et puis c'est ensuite un petit peu que c'est arrivé où tu te dis. Parce que le mec un peu pas connu sur qui on s'enflamme, si tu vas par là, moi je te dis que Chalet Tachar, quand il arrive, il correspond à ça. Tu dis, ouais, un croate, la Croatie c'est un peu à la mode, ils ont fait finale de Coupe du Monde. C'est plus, comment dire, l'ambiance générale, l'atmosphère générale qui est un peu à la loose. Et quand tu redémarres une saison, moi je l'ai dit l'autre jour, je sais pas ce que t'en as pensé en étant au stade, Flo, mais ok. Il a pas eu le temps de complètement bosser la tactique, machin. Il lui faut du temps, Villas-Boas. Il faut être indulgent, tout ce que tu veux. Mais voir sur le terrain des mecs ne pas se donner complètement, être loin au marquage. Et plus le match avançait, plus t'avais le sentiment qu'il se faisait balader et il se transformait en plot. Mais c'était complètement dingue. Constater qu'il veut mettre un 4-3-3 alors qu'on sait tous que ça ne marchera pas avec Payet, le 4-3-3.
Et ni avec Germain tout seul en pointe.
Bah, ça, encore moins. Ça, c'est même pas besoin de le.
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il découvre ça.
À la limite, Germain, tu te dis, oui, mais on sait que c'est quand l'autre va venir, il lui prendra sa place. Benedetto, en l'occurrence. Donc, tu te dis, c'est momentané. Mais là, t'as le sentiment, quoi, on va retenter Payet en 4-3-3 en haut à gauche? Ça ne peut pas. Il le sait pas le faire. Ça va pas coller. Donc là, motif d'espoir, Cotovin. Reviennent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore que Strootman finisse par sortir de l'équipe parce que il est pas au niveau. Enfin bref, on a l'impression qu'on est exactement dans la saison dernière avec les mêmes débats. Payet peut pas jouer en 4-3-3. Strootman, il est free.
Et les mêmes scénarios parce que tout l'autre jour Marseille a l'occasion de marquer et sur l'occasion d'après prend le premier but et c'est vrai que c'est arrivé de nombreuses fois à Marseille qui manquait un peu de chance. Flo, est-ce que justement ce côté un petit peu redondant des scénarios entame le moral de l'effectif de l'OM?
Alors ils ne le disent pas très franchement, mais pour avoir un peu bossé et passé des coups de fil, discuté pas mal ces 2-3 derniers jours, on me raconte effectivement qu'on a des joueurs qui sont encore marqué par la saison passée et qui le mot qui est le plus revenu, c'est un peu préoccupé, les têtes et les jambes encore un peu lourdes. Il y a un sentiment, Daniel il parlait de morosité ambiante, c'est ça en fait. Il y a une démotivation générale, ce qui est aussi beaucoup revenu chez certains joueurs ou proches que j'ai pu avoir. Ils ont été assez marqués par l'incertitude qui régnait cet été. Mais où va l'OM? Quel projet? On fait quoi? On va recruter qui?
Ça peut donner un truc où ça se goupille pas bien, à la Monaco l'année dernière, faut faire attention.
Exactement, hein. Il y a eu, on en avait parlé sur RMC en fin de saison dernière, un discours du président Jacques Henriero qui avait dit, les gars, je ne retiendrai personne, toute offre jugée intéressante pourra vous faire partir. Et ça, quelque part, ça a été assez mal vécu par certains qui se sont dit, alors c'est quoi, on compte sur qui, on compte sur quoi, qu'est-ce qu'on veut
et
faire
dans ce contexte,
cette
OM? Comment est vécu le licenciement de Rami?
Écoute,
parce qu'il paraît qu'en interne, il y a quelques joueurs qui se sont dit tiens, c'est comme ça qu'on fout dehors
je
les
l'avais mecs. Dit, ouais, je l'avais raconté, raconté dès ça, le premier jour, ouais. Où en fait Adil Rami, quand les joueurs ont appris qu'il y avait une procédure disciplinaire qui était en cours, certains se sont dit ah ouais d'accord, donc en gros on n'a pas le droit à l'erreur et on a compris, surtout que c'est pas la première fois, il y avait déjà eu des cas avec Henri Bédimo notamment, donc c'est vrai que c'est mal vécu, je suis pas sûr que ce soit une très très bon pour l'image du club en plus. Parce que est-ce que ça peut rendre certains joueurs réticents à l'idée de venir, je sais pas. Bon, écoute, c'est vrai que c'est pas une bonne pub pour l'image de.
Parce
de
surtout, ça fait genre, on a besoin d'économiser un salaire et tout, parce que si le mec il est vraiment essentiel, je pense que sa boulette, on l'oublie, c'est un peu ouais, toujours pareil.
Messieurs Baptiste, supporter de l'Olympique de Marseille, nous a appelé au 32-16. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir à tous.
Salut Baptiste.
Pour toi, il y a urgence, il y a le feu à l'OM.
Écoutez, je viens de vous écouter, Flo, Daniel, je souscris à tout ce que vous dites et pour moi ça ressemble quand même à une urgence claire et nette quoi. Quand on regarde le tableau, il est pour moi assez sombre. Si tu résumes, un effectif trop limité pour remplir les objectifs que le club s'est fixé, aucun joueur au milieu de terrain capable de casser des lignes ou de faire des courses à haute fréquence, des ailiers qui peuvent prendre la profondeur, qui sont capables d'éliminer des mecs, un directeur sportif qui nous montre aujourd'hui qu'il est complètement dans l'incapacité de faire marcher sur son réseau pour avoir soit des petits joueurs comme disait Flo, des petites pépites qu'on va pouvoir sur lesquelles on va pouvoir s'enthousiasmer, ou des prêts de joueurs un peu plus confirmés qui peuvent nous apporter, et derrière un président qui foire toute sa communication à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une connerie plus énorme que celle de la veille, et pour moi la plus grosse, c'est annoncer un projet avec des jeunes, avec des machins, alors qu'on est incapable de le faire.
Mais surtout que là sur ta première équipe t'as aucun jeune hein, à part Chabrol,
capable d'aller faire ça quoi.
Et surtout Baptiste,
ça c'est pas l'urgence, je sais pas ce que c'est quoi.
Surtout qu'il y a un vrai dossier qui est peut-être plus important ou en tout cas plus symbolique que le recrutement lui-même de nouveaux joueurs, c'est la prolongation de certains talents. Je rappelle que Bouba Camara, il est en fin de contrat dans un an. Il n'a toujours pas été prolongé. Ce serait quand même un drôle de signal si jamais il arrivait en janvier là sans avoir été prolongé. On le souhaite pas à l'OM. Et puis il y a celui qu'on appelle la pépite du centre de formation, Isaac Ladji, qui est un jeune joueur vraiment très prometteur qui joue sur le côté. On l'a vu entrer en cours de jeu contre Naples. Moi, je mets pas ma main à couper qu'il va signer pro avec l'OM. Il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui, qui proposent plus que l'Olympique de Marseille. Et Baptiste, tu as raison. C'est-à-dire que le projet, s'il se veut crédible et si Jacques-Henri Hérault a dit vrai, et à savoir que l'OM veut construire autour des jeunes, si la première chose que tu ne parviens pas à faire, c'est prolonger ce que tu as et qui sont les meilleurs, c'est vraiment un mauvais signal.
Merci beaucoup Baptiste d'avoir été avec nous au 32-16. On va prendre à présent Nabil. Bonsoir Nabil.
Bonsoir à tous.
Alors toi, tu es un petit peu plus inquiet par l'image que dégage le club, l'image un peu brouillonne.
Ah oui, mais là, on sait pas du tout où on va. C'est une image brouillonne. On a la direction qui est complètement perdue. On recrute pas. Bon, vous avez résumé, depuis tout à l'heure, je vous écoute. Vous avez résumé l'ensemble des points négatifs qu'il y a sur Marseille. On a des anciennes gloires de l'OM qu'on n'arrive pas à faire venir dans l'organigramme qui pourrait nous aider. Je sais pas, moi, je pense à un mec comme Didier Drogba qui a un réseau au niveau mondial qui pourrait faire du bien à l'OM. Il y a des anciennes gloires comme Papin qui pourrait venir pour renforcer le côté sportif dans la direction.
Demande
il y a plein d'anciennes gloires qu'on pourrait faire venir qui pourrait aider le club.
On s'en fout qu'ils soient anciens ou pas.
Non, laisse-le où il est. Tu sais, même si c'est pas un ancien directeur sportif, c'est pas une affaire d'ancien, tu sais. C'est une affaire de réseau, de travail.
De qualité.
Surtout de travail. De combien de mecs tu peux mettre dans une cellule pour observer les matchs partout, pour trouver les bons joueurs.
C'est quoi, je veux dire, même les bons, parfois, comme un Campos. Souviens-toi, au début, la première année de Lille, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pris les joueurs? Et ça va couler. Et de même pour celui qui est parti à la Roma, qui aujourd'hui n'est Monchi, c'est ça? Qui faisait des merveilles.
Oui, finalement. Il a eu une période de gloire, là, c'est un peu
moins. Voilà. Donc, tu vois, même ça, sur ces profils-là, t'as du mal à avoir de la continuité.
Nabil, si je te donne une baguette magique et que tu peux faire venir n'importe qui à l'OM dans, on va dire, quand même, dans le raisonnable, hein, dans des joueurs potentiellement, me répond pas Cristiano Ronaldo, qu'est-ce que tu fais venir là pour renforcer l'équipe et pour espérer voir une saison avec un peu plus de ciel bleu?
Moi, on sort d'une canne. Je suis d'origine marocaine. J'ai vu des joueurs qui sont très très bons et qu'on n'utilise pas. Je pense par exemple à Ziyech, qui a fait une super saison avec l'Ajax, c'est quelqu'un qu'on pourrait essayer de faire venir.
C'est beaucoup trop cher pour l'OM.
Autre possibilité, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, à la CAN, il y avait quelques joueurs. Je t'écoute.
Il y avait quelques joueurs. Il y a Amrabat. Amrabat qui, moi, dans la combativité, pourrait venir renforcer. Parce que même au niveau du capitana, on se plante. L'année dernière, on a mis Payet. On a vu que ça n'a rien donné. Et là, cette année, on remet Mandanda. Mais je sais pas, soit je vois pas, soit c'est moi qui regarde les matchs à l'envers, mais c'est pas les capitaines qui font à l'OM, il faut quelqu'un qui soit sur le terrain, qui aboie. Quand on a regardé le match contre Reims, on prend le premier but, il y a aucune révolte, rien, personne, tout le monde se regarde, tout le monde regarde par terre, tout le monde baisse la tête,
on remet
le ballon.
C'est pour ça que quand tu mets un gardien de but capitaine, c'est compliqué derrière de, alors lui, il va toujours gueuler et quand il va prendre un but, qu'il soit capitaine ou pas d'ailleurs, mais après, il faut quelqu'un au cœur du jeu qui puisse remonter les pendules.
Il y aurait une possibilité que ce soit Luis Gustavo, et même si c'est un sujet qui est pas trop avouable, surtout que le président Hérault a dit récemment qu'il voulait qu'il finisse sa carrière au club, lui proposer un poste derrière, etc. S'il a pas été nommé capitaine, c'est parce qu'il y avait encore une incertitude concernant son avenir à l'OM, et je pense sinon qu'il aurait tenu la corde.
Merci beaucoup Nabil d'avoir été avec nous. 32-16, très rapidement Flo, une dernière question. On parle du mercato, quoi. Le mercato c'est aussi garder ses joueurs. Est-ce qu'il y a la moindre chance de voir Thauvin quitter l'OM d'ici au 2 septembre?
Tu m'aurais posé la question il y a 48 heures, je t'aurais dit compliqué. Le fait qu'il y a un transfert qui se profile avec Rodrigo Moreno qui va signer à l'Atlético Madrid, Valence devrait se réveiller. Est-ce que Valence va proposer autant que ce que réclame l'OM, à savoir minimum 40 millions d'euros? C'est loin d'être sûr, mais effectivement c'est un dossier sensible, et je rappelle qu'André Villas-Boas ces derniers jours a beaucoup insisté sur le fait que lui, ok, il visait le podium, mais faut pas qu'il y ait de vente. Ah, Thauvin, il est content de rester. Il a vraiment distillé beaucoup de messages qui en fait sont adressés à la direction pour dire ok, j'ai compris, j'aurais pas beaucoup de recrues, mais par contre en échange, m'enlevez pas mon meilleur buteur, j'aimerais garder Florian Thauvin. C'est le souhait d'André Villas-Boas.
Merci beaucoup Flo d'avoir été avec nous pour nous parler de l'Olympique de Marseille. On te souhaite une excellente saison, Damien.
Effectif, qui a une valeur marchande en fait?
Il y a Thauvin et Sanson.
Voilà.
Thauvin, Sanson, et d'une certaine manière et dans une moindre mesure, peut-être Maxime Lopez qui continue d'être traité comme s'il était personne, alors que ça reste quand même un des joueurs performants de la saison dernière.
C'est pas pareil, il est tout en haut de la liste pour le Barça, mais c'est pour l'année prochaine.
Oui, non, mais
ils annoncent entre 120 et 150 millions.
Tu es dur.
Et une place de titulaire au Barça. Mais ça, c'est Bartomé a dit.
On revient.
Dossier prioritaire de l'été prochain.
On revient dans un instant dans l'after. On vous signale qu'en Ligue des Champions, en troisième tour préliminaire, l'Ajax est passé face au PAOK Thessalonique et que le Tchéphérique Luj a créé la surprise en sortant le Celtic. Krasnodar, pour le moment, est devant Porto. On vous tient informé.
Il paraît qu'ils sont revenus à 3-2 et que c'est pas fini.
Oui, ils sont revenus à 3-2. C'est pas fini. Reste 4 minutes à jouer. Mais pour l'instant, Krasnodar est devant. Oui. À tout de suite pour le Mercato Show.
RMC, l'Afterfoot, Timothée Mémon.
22h46, de retour dans l'After. Dans la deuxième heure, on va vous parler de Saint-Etienne, de l'Espagne et du choix de Neymar en direction du Real, en direction du Barça, en direction du camp des loges. Les trois possibilités existent pour le Brésilien et puis on jouera à la fin de cette émission. Mais avant cela, il y a le Mercato Show.
C'est combien?
30 000.
Attends, je vais te le marchander.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Il a le regard noir mais le sang vert. Angie Luata nous a rejoint pour nous parler du mercato. Adil Rami n'est donc plus un joueur de l'OM.
Ouais, vous venez d'en parler avec Flo Germain. Donc moi je suis un peu surpris, je croyais que j'allais vous apprendre quelque chose mais en fait pas du tout. Rami qui est plus un joueur de l'OM effectivement, contrat rompu, licenciement de la part du club marseillais, c'est bien un licenciement hein, faut utiliser le terme. Il a raté un entraînement, vous en avez parlé hein, il a été blessé.
Ça va se finir au prud'homme cette affaire-là.
Exactement, j'allais te le préciser, ça va probablement se finir au prud'homme parce que les avocats d'Adil Rami refuse le terme de faute grave. Je vous rappelle juste la faute grave, c'est Fort Boyard. C'est-à-dire qu'il est allé à Fort Boyard, tourner à Fort Boyard, alors qu'il devait être à l'entraînement, sur un jour qui, à la base, était censé être un jour off, mais qui finalement n'était pas un jour off. Et le joueur, en l'occurrence, était blessé. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses à discuter. On va laisser ça aux avocats.
Comme ça, dans les clubs, ça arrive très souvent quand t'es joueur.
D'aller à Fort Boyard?
Pas d'aller à Fort Boyard, mais éventuellement de rater. Moi, j'aimerais bien y aller. C'est pas bien. Mais de rater un entraînement ou.
Invitez-nous, Fort Boyard, on veut venir. Invitez l'After,
s'il vous plaît.
On a envie. Ah,
le truc des insectes.
Tu sais bien que c'est là-bas qu'ils te mettront. Si tu dis qu'il y a un truc que t'aimes pas, il te met dans la cabine.
Justement,
il faut faire croire que t'adores les araignées.
Et bouffer tous les trucs horribles et tout, tu bouffes tranquille?
Ah, écoute, c'est pour, je vais faire le
beau c'est pour une association.
C'est génial, c'est bien sûr, je le fais.
Ça dépend de l'assaut.
Alors là,
je suis même prêt à,
rompre
un contrat de 2 ans à l'OM pour ça.
Non, mais si on y va, c'est tous pour ça. Le truc, c'est savoir ce que t'es capable de faire.
Mais toi, t'as des relations dans le métier. On fait l'équipe de l'after.
T'as des relations.
On va traverser la rue après l'émission. On ira toquer en face à France Télé.
Toi, tu mets où d'ailleurs?
Je me suis posé la question. Moi, je veux bien être le mec qui résout les énigmes. Parce que les reptiles, c'est pas un, non?
Plonger dans l'eau à 15 degrés, c'est, non?
Ça va, non ça, c'est bon, ça.
L'épreuve un peu intello, quoi.
Ouais. Mais bouffer les trucs.
Quoi que la laine du père froid. Bref.
Adil Rami, donc qui est à Fort Boyard, mais surtout qui est joueur de foot.
Ça t'intéresse pas qu'on parle des épreuves, Timothée. Il nous fait chèque son sommaire, là, avec tous les transferts qu'on connaît par cœur, là. On dit, mais ça m'intéresse beaucoup plus.
Si tu continues, Daniel, je te redonne les résultats de la Coupe de la Ligue.
Si il flippe avec les insectes qui lui tombent sur la tronche. Mais je suis sûr qu'il y a rien.
Il y en a qui
connaît. Vas-y, trouve-moi un seul.
Là, tout de suite.
Et je te réponds honnêtement, je ne savais pas.
Un milieu de terrain qui intéresse les Girondins de Bordeaux. Allez,
vas-y.
Tu vois, tout de suite.
Vas-y.
Gonalon.
Ah non, je savais pas.
Bah ouais.
Voilà. Je le sujet clos, envie.
Bravo.
T'as réglé tout le monde. On t'écoute.
Ça bosse là-haut, hein.
On continue juste sur Adil Rami. Donc, il est libre de s'engager absolument où il veut. C'est aussi important de préciser ça, hein. Finalement, ce licenciement, le fait que ça se termine, ça lui permet de négocier. C'était pas possible pour lui avant parce qu'il était sous contrat.
Et on clôture avec l'OM, notamment avec une grosse rumeur du jour, un peu spéciale.
Ouais, j'ai envie de donner la rumeur. Même si, franchement, j'aime pas trop qu'on donne les rumeurs comme ça. Mais Daniel Sturridge, à l'OM. Daniel Sturridge, il est libre de s'engager absolument où il veut. C'est The Telegraph qui explique qu'il y a 13 clubs qui sont intéressés par Sturridge.
Enfin, ce serait pas même si ça se faisait, c'est pas le recrutement de l'année, hein. Sturridge, c'est pas.
Non, mais c'est rigolo quand même.
Ah oui, c'est rigolo.
On voit les prétentions salariales.
Alors, parlons de Gonalon au Girondin.
Ouais, Bordeaux qui cherche un 6, qui a absolument besoin d'une vraie sentinelle. C'est probablement là qu'ils sont les plus démunis. Gonalon qui était prêté la saison dernière à Séville, il est revenu cet été à la Roma, sauf qu'il ne joue pas, qu'il ne fait même pas partie des groupes pendant les matchs amicaux à l'AS Roma, Gonalon. Donc on envisage un prêt avec option d'achat pour les Girondins de Bordeaux. Il y a des contacts entre les deux clubs, mais il n'y a pas eu d'offre encore pour ce joueur.
Donc Bordeaux veut bien prendre un joueur qui est même pas dans les remplaçants de Rome, qui joue pas à Séville, qui depuis qu'il a quitté Lyon est en échec sportif total.
C'est le fameux truc du il a gardé une belle
coupe. Oui, et puis on peut imaginer qu'il se relance, Damien.
C'est presque un peu humiliant pour notre championnat, quoi.
Bah, il faut, pour lui, ce serait bien déjà qu'il change d'air, ça c'est sûr. Mais après, le truc, c'est quand tu vois le match de Bordeaux ce week-end et leur perte de 6.
Chouameni
en défense centrale, renseigne-toi, Damien.
Donc,
bon, jouer à Bordeaux,
tu sais que ton match, ça a été Mécher, Pablo. Oui, ils ont été catastrophiques contre Angers, justement.
En attendant la titularisation de Koscielny, évidemment. On continue avec des précisions sur l'arrivée de Wissam Ben Yedder à Monaco.
Ouais, donc il est à Monaco, il a passé la visite médicale, l'officialisation est espérée. Au début, on pensait qu'elle était espérée dans la soirée. Ça devrait plutôt être là, parce qu'il est quand même presque 23h dans les prochaines heures, donc demain matin probablement quelque chose comme ça.
On espère qu'il n'y ait pas à nouveau un truc qui coince.
Ouais, parce que ça a beaucoup coincé avec Monaco, justement.
On peut être à Monaco, mais pas du tout pour un transfert. C'est une destination de footeux.
En l'occurrence, il était à Monaco.
Lundi à déjeuner, Dybala et Alexandro étaient à Monaco. Ils n'ont pas du tout signé à Monaco.
Ouais.
Mais là, en l'occurrence, pour
tu
ton
passes
cas,
pas la visite médicale au casino, quoi.
Oui, voilà. Là
pour le dire.
Là, quand t'en es là,
quand, oui, quand tu passes une visite médicale, généralement.
On sait qu'il va signer. Ouais.
Je rappelle le montage, 40 millions d'euros payés par Monaco. Ça, c'est le montant de la clause libératoire. Dans l'autre sens, Ronny Lopez pour 20 millions d'euros qui va à Séville et qui est en train de passer sa visite médicale aussi. Enfin, qu'il a passé aujourd'hui. Dans le transfert de Ben Yedder, petite précision aussi. Les 40 millions d'euros, il y a 5%, c'est la loi, hein, sur les transferts de pays à pays qui reviennent au club qui l'ont formé entre ses 11 et ses 23 ans. Il y a le Toulouse Football Club dans l'histoire. Donc,
2 millions d'euros.
Ça croque un peu. Ils vont pas toucher 2 millions d'euros.
Une partie des 2 millions d'euros.
Tu calcules vite, hein.
C'est dommage quand même, tu perds ton meilleur joueur, Ronny Lopez, qui a été le plus efficace là sur ce match contre Lyon. Mais
avec devant.
Ouais, bien sûr, c'est dommage de ne pas pouvoir faire les deux, garder les deux.
Ouais. Ben Sebaini est arrivé à Mönchengladbach.
Ouais, kicker qui en parle, qui donne l'information. Ben Sebaini qui va passer sa visite médicale. Il a 24 ans, le transfert est estimé entre 7 et 8 millions d'euros plus.
Donc, Rennes, ils sont en train de perdre leur meilleur joueur. Ils s'en foutent en fait.
Ils ont perdu beaucoup de monde.
Ils ont dit on a gagné la Coupe de France, maintenant c'est fini. Le foot, ça ne nous intéresse plus.
Il faisait partie des meilleurs joueurs de Rennes, t'estimes ?
En tout cas, des tauliers, ouais.
Tauliers, ouais, ouais.
L'année dernière, il est bien. Oui, quand même. C'est C'est pas, enfin, c'est surtout l'impression que effectivement ils sont en train de perdre pas mal de joueurs, quoi. Et on en est à combien là maintenant là? Benjamin André, Ben Sebaini, ça, c'était trois joueurs importants de l'équipe l'année dernière. Le gardien n'était pas extraordinaire, mais pour l'état d'esprit, il était important. C'était un cadre.
Avec Mendy quand même.
Oui, non, mais je parle du cadre général. Les mecs qui étaient importants dans le groupe. Je trouve que ça commence à faire lourd, quoi. Parce que là, ils ont eu, en plus.
Tu t'attendais à ce qu'ils soient dans la continuité, quoi.
Ouais. Par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, ouais, là, ils.
Non, mais voilà, ils ont un peu d'argent quand même, hein, maintenant, avec la vente de Sarr, de André. Je pense que ça va commencer maintenant.
Ça commence quand les soldes, là, parce que. Ouais.
Ça va bouger. Rennes et Nice vont probablement s'activer.
Il y a qui
en
encore
sur le
marché comme joueur, là.
Bah, Nice n'aura pas le choix, mais il faudra d'abord l'officialisation du rachat. Petite parenthèse, messieurs, je sais que ça vous tient à cœur et que ça vous intéresse. Sachez que Krasnodar a bel et bien sorti Porto.
Ah ouais.
C'était l'énorme cote. Porto s'était imposé 1-0 au match aller, 3-0 à la mi-temps pour Krasnodar, 3-2 score final, 3-3.
Ça permet à Lyon d'être dans le chapeau 2,
cumulé. Ça peut faire grimper effectivement Lyon.
Je crois que c'était si Macron l'Ajax faisait sortir aussi.
Tu veux te lancer dans les chapeaux maintenant là.
Non, j'attends le retour de Gilbert pour ça. Pour qu'on soit bien sûr de se planter. Mais justement, si on pouvait. Je sais pas.
On regardera
si Porto et l'Ajax n'y étaient pas, ça permettait à Lyon. Un seul, j'ai un doute.
L'Ajax, de son côté, s'est qualifié face au PAOK Thessalonique et non, le
Thessalonique.
Thessalonique, ouais.
Thessaloniki. Le Tchéféric Cluj s'est offert le Celtic tout de même. Voilà une autre surprise. Et puis il n'y aura pas de Dynamo de Kiev en Ligue des Champions cette saison puisque le club bruges les a battus. Il reste évidemment les barrages à disputer. Mais revenons.
C'est compliqué quand même pour contre Sao en ce moment. Là. Oui. Une défaite sur le premier match.
Ça commence
là,
à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, hein. Et ça va vite au Portugal.
Ah ouais.
Excellente remarque. Très judicieuse. De Damien Périnel, merci beaucoup. On continue.
N'oubliez pas, hein. Ouais, je suis un mec bien.
On continue avec une officialisation. Paul Lann arrive à Brest. Ah
ouais, ouais, il quitte Montpellier, Paul Lann. Il arrive à Brest, effectivement.
C'est pas avec Jérôme Rotten que tu
Paul
vas.
Paul Lann, il est en Lann. On parle de Paul Lann. Il s'en fiche.
Donc, Paul entre Lann. Paul Lann et savoir si on peut faire une équipe de l'after à part Fort Boyard, qu'est-ce qui est le plus important? Avec Jérôme Rotten qui se bat avec un serpent.
Ouais, vendu comme ça, franchement.
Un duel Gilbert-Laboule.
Non, la boule nous a quittés, tu sais.
Ah non,
c'est pas vrai.
Si, malheureux. Ah, je veux plus y aller.
Ah non, la boule Le Gong. Qui était chauve, là.
Oh. C'est un pote, hein.
Mais si, il tapait sur un gros truc.
Ah, sur un gong, quoi.
Sur un gong, tout simplement, la boule Le Gong.
Paul Lann est à Brest.
Oui, Paul Lann à Brest. Il quitte donc Montpellier une saison plus une en option. Il a 30 ans, Paul Lann, il était sous contrat jusqu'en 2021.
Le RC Lens veut un ailier ghanéen.
Là, j'en parle. Je sais que c'est de la Ligue 2. Je sais que ça vous plaît pas forcément quand on parle de Ligue 2, mais là, on est obligé. C'est le
Lens.
Racing Club de Lens. Tout le monde nous écoute. 23 ans, Samuel Owuzu. Inconnu au bataillon, vous me direz, sauf si vous avez bien suivi la CAN. Timothée, je sais que c'est le cas. Lens l'a probablement vu à la CAN puisqu'il a joué 4 matchs avec le Ghana cet été. Une offre de 700 000 euros plus 300 000 euros de bonus a été faite. Son club, c'est Kukarici. C'est en Serbie.
Effectivement.
Kukarici.
Et pourquoi pas. Et enfin, Benjamin Moukandjo est libre de s'engager où il le souhaite.
Ouais, il peut s'engager où il veut. Moukandjo, ancien joueur de Reims, de Lorient, de Nancy en Ligue 1. Il a passé 2 ans en Chine et il a définitivement résilié son contrat. Donc effectivement, il peut s'engager où il veut.
Merci beaucoup, Angie, pour toutes ces informations. Le temps pour moi de passer un tout petit peu à l'étranger. On va aller très vite avec Sam Asekou vers Hoffenheim.
Allez, Sam Asekou vers Hoffenheim, effectivement, 23 ans. Il va quitter Salzbourg. Un transfert estimé à environ 14 millions d'euros. Il va signer pour 5 ans. Visite médicale prévue demain.
Ribéry en discussion avec la FIO.
Ouais, en discussion avec la FIO, d'après Sky Italia, alors il y a eu beaucoup de discussions autour de Ribéry, donc on va prendre l'information avec des pincettes, mais la FIO qui voudrait faire un grand nom d'ici la fin du mercato, ils auraient pensé à Ribéry.
Quand on prend une info avec des pincettes, est-ce qu'il faut visualiser le truc qui sort,
la pincette,
le truc qui se prend le sucre là, pour prendre le sucre,
absolument.
La pincette,
pincette,
la pincette un sucre.
Exactement. La délicatesse de la pincette.
Parce que quand il y a des expressions, je cherche à comprendre.
Llorente est libre et intéresse Naples.
T'as raison. Ouais, Llorente libre depuis qu'il est parti à Tottenham, quand même, un garçon qui est allé en finale de Champions League.
Pourquoi que Llorente est sur les tablettes de Naples?
Llorente, absolument, est sur les tablettes de Naples. Discussion en cours entre Llorente et le Napoli.
À la limite, si, c'est le mec qui peut avoir mis la liste sur iPad. Donc il pourrait, colle, du coup.
Il est sur la tablette de Naples.
Ça peut marcher.
Il pourrait rebondir au Napoli.
J'ai entendu dire qu'il était suivi.
Tu crois que le DSU n'a pas un seul iPad?
Il suivi de près.
Il est suivi de près
par Marseille.
Hein? Llorente. Il est suivi de près par Marseille.
La meilleure, c'est quand même
le mec est derrière
comme
lui.
Storage, en fait, pareil.
La meilleure, c'est sous la forme d'un prêt.
Sous la forme d'un prêt.
J'entends beaucoup.
Ça. Effectivement. On va disserter sémantique hors antenne pour ne pas ennuyer nos auditeurs. On se retrouve dans un instant pour la suite de cet after. La deuxième heure, on va parler de Saint-Etienne, de l'Espagne et du quiz de l'after. Je ne t'écoute pas, je suis concentré. 22h58, à tout de suite dans l'after.
L'histoire du fucking Blue Boy.
RMC. L'after foot.